France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Vous écoutez France Musique et c'est un vrai bonheur d'être avec vous chaque jour dans nos programmes de l'été, dont le Musique Matin de Clément Rochefort que vous écouterez dans un instant et jusqu'à 9h. Bonne journée. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai le plaisir de vous accompagner encore jusqu'à 9h sur France Musique. Nous sommes le jeudi 29 juillet 2021 et on vous a préparé une matinale plutôt gourmande avec à 7h40 un reportage consacré au festival et à la gastronomie par Aude Gigère. À 7h50, dans le jeu de l'été, a gagné le disque Proust, le concert retrouvé du violoniste Théotime Langlois de Swart et du pianiste Tanguy de Villancourt. À 8h, le journal d'Elisa Fernandez. À 8h10, le Tour de France des festivals qui nous entraînera au Tolonnais, près d'Aix-en-Provence, au musical de la Route Cézanne. À 8h25, l'été des frères Jacques. Et à 8h30, notre invité du jour, la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, qui viendra nous parler de son tout dernier disque, un disque de sonates et de chants d'amour de Johannes Brahms en duo avec son mari Pascal Amoyel, un disque qui scelle d'ailleurs leurs 20 ans de carrière côte à côte. Mais pour se mettre en route, un petit coup de fouet tout de suite, rien de tel que des cordes animées, celles des symphonies pour cordes composées par Mendelssohn, âgé de 12 ans. Voici le premier mouvement de la Sinfonia numéro 1 en ut majeur par le Concerto Köln. Bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique.
Thank you.
les cordes vitaminées du Concerto Köln, c'est meilleur qu'un mauvais café, un du bon Mendelssohn et du bon et jeune Mendelssohn. C'était le premier mouvement de sa première symphonia pour cordes en ut majeur, interprétée donc par les musiciens du Concerto Köln sans chef, comme c'est leur habitude de travailler. Il est 7h36, merci d'être avec nous sur France Musique. Alors parmi les nouveaux rendez-vous de l'été, je vous conseille au mois d'août, tous les samedis à 19h, la nouvelle émission de Marjolaine Portier-Kaltenbach, notre jeune recrue du jazz sur France Musique. L'émission s'intitule « Mieux vaut tard que jamais », une émission qui répond foutaise à toutes les remarques du genre « Un instrument, ça doit s'apprendre dès l'enfance, la notoriété, soit on la rencontre en début de carrière, soit pas du tout. Enfin, après l'heure, c'est plus l'heure. En musique, comme dans la vie, mieux vaut tard que jamais », nous répond Marjolaine. Tous les artistes évoqués dans cette série ont en commun qu'il leur a fallu du temps pour trouver leur voix, comme Charles Bradley de Bongo Hop, pour rencontrer le public et le succès, comme Sixto Rodriguez, Buena Vista Social Club ou Jimmy Scott, ou pour être réunis au disque ou sur scène, comme Charlie Haden et Brad Meldo, Jan Lee et Ryan Blake, Chick Corea et Chucho Valdés. Les albums perdus puis retrouvés auront aussi leur place grâce à The Lost Recordings Label, Marvin Gaye, John Coltrane, Miles Davis, Nina Simone. Mieux vaut tard que jamais, c'est une émission qui devrait vous redonner de l'espoir si vous aussi vous êtes du genre à avoir des petits retards à l'allumage. Premier épisode, samedi 7 août. The Cat, une musique signée Lalo Schifrin pour le film Les Félins. Voilà un exemple de musique que vous pourrez entendre dans la nouvelle série de Marjolaine Portier-Kaltenbach. Mieux vaut tard que jamais, tous les samedis du mois d'août à 19h.
C'est l'été sur France Musique.
Il est 7h40 et c'est l'heure de l'actu musicale. « Hier, sur son compte Instagram, le pianiste russe Yevgeny Kissin a fait part de la mort de sa professeure de piano, Anna Pavlovna Kantor, qui s'est éteinte paisiblement à l'âge de 98 ans. Depuis des années, elle l'accompagnait partout, le suivait à presque tous ses concerts. Dès le début de mes études, Anna Pavlovna est vite devenue beaucoup plus qu'une simple professeure, écrit Yevgeny Kissin. Elle a été pendant toutes ces années une véritable amie, comme un membre de la famille dont elle est devenue très proche, déménageant il y a 30 ans pour vivre avec nous. Elle a été ma seule professeure et tout ce que je sais faire au piano aujourd'hui, je le lui dois. C'est une femme vraiment remarquable, une personne d'une rare intégrité. Bénie puisse être sa mémoire pour toujours. Le festival de Sully-sur-Loire donne rendez-vous à ses habitués en septembre. D'habitude, le festival se tient courant juillet, mais cette fois, le 48e festival de musique de Sully-sur-Loire dans le Loiret se tiendra du 2 au 5 septembre. En 2020, le festival avait été annulé pour la première fois de son histoire, Covid oblige. Traditionnellement destiné à valoriser le patrimoine architectural des communes voisines, le festival a été contraint de réduire son périmètre d'action, rapporte Le Parisien. Cette année, les concerts se dérouleront exclusivement dans la cour du château et dans l'église Saint-Germain de Sully-sur-Loire. La programmation, elle aussi, évolue. Jadis tournée vers les répertoires baroques et classiques, elle se transforme peu à peu pour aller vers le jazz, l'électro et les musiques du monde, avec une 48e édition aux couleurs musicales caribéennes et aux notes afro-cubaines. Mais le violoncelliste Gauthier Capuçon et le pianiste Franck Bralet seront aussi de la partie. Et enfin, un dîner agréable et des bons vins. Quoi de mieux pour mettre nos sens en éveil avant ou après un concert? De nombreux festivals développent des propositions toutes plus alléchantes les unes que les autres pour créer des moments d'exception autour de la musique. Une enquête signée Aude Gigère.
Tout l'été, les festivals rivalisent d'imagination pour offrir aux mélomanes une bulle hors du temps. Pour nombre d'entre eux, les moments de dégustation prennent une part majeure dans la convivialité tant appréciée par les spectateurs. Depuis 20 ans, le festival de Fénétrange, dans la Moselle, associe à chaque concert un événement culinaire. Benoît Piatkowski, président et directeur artistique du festival, souligne l'importance de cette convivialité.
On travaille en collaboration avec les restaurateurs, les hôteliers étoilés de la région, mais aussi avec le lycée hôtelier qui est situé à Dieuze, une petite localité à 20 km de Fénétrange. Fénétrange est un petit peu situé au bout du monde. On n'avait pas de grand hôtel ou de grand restaurant à disposition pour le public. Pour créer une convivialité qui prolonge le concert, on a imaginé cette formule de manière à ce que le public puisse se retrouver aussi autour d'une bonne table à la fin des concerts. Nous, notre carte de visite, c'est la musique à la campagne. Il faut proposer quelque chose de différent pour que les gens des villes viennent aussi jusqu'à nous, parce que notre public vient aussi des villes environnantes, voire à l'occasion de l'Allemagne qui n'est pas très éloignée, ou du Luxembourg.
Au festival Piano en fleurs à Marseille, la gastronomie est complétée par la vue, l'ouïe et l'odorat autour d'une thématique florale. Amandine Habib, pianiste et directrice du festival, évoque une harmonie parfaite.
C'est un peu ce qu'il disait Scriabine, en fait. On va réunir tous les sens sur un même concert. Il a fait construire un théâtre en Inde et il voulait qu'il y ait l'odeur, le goût et l'ouïe en même temps. L'un va pas sans l'autre, quoi. Quand on aime une musique de façon exigeante, on est aussi exigeant sur la nourriture, sur les odeurs. C'est un peu tout ça qu'on travaille et qu'on aime faire tester au public pour leur donner le plus de palettes possible à tous les niveaux. J'ai compris que la botanique, c'était aussi un art, qu'il fallait un savoir-faire, de la patience, de la contemplation, et que c'était un peu la même idée qu'en musique. Quand on voit l'éclosion d'une fleur, on n'imagine pas tout le processus qu'il y a eu derrière. La graine, il faut un bon environnement, etc.
Les liens entre dégustation et plaisir musical se situent à tous les niveaux. Aux estivales musicales du Médoc, le président de l'association Jacques Hubert insiste sur l'excellence des interprètes. Une excellence que l'on retrouve ensuite lors des dégustations de grands crus classés. Gauthier Capuçon, directeur artistique du festival Musique et Vin au Clos Vougeot, insiste sur les connexions entre deux univers très proches.
Ce qui décuple ces émotions, c'est le partage. C'est la même chose quand on partage une bonne bouteille avec des amis ou des gens que l'on aime, et quand on partage la musique sur scène avec le public ou dans le public. La difficulté que l'on a, c'est toujours de décrire un vin, de décrire des émotions, de décrire ce que l'on ressent. Parfois, on se sent un peu gêné. Est-ce qu'on se trompe? On n'a pas forcément les mots. Et du coup, on n'ose pas. Quand on parle d'un vin, c'est comme en musique, il n'y a pas d'erreur. Quand on parle de sentiments, quand on parle d'émotions, et je trouve ça merveilleux de se laisser guider et porter par quelqu'un qui connaît bien cet univers.
Un univers à explorer sans limite. Les festivals du Médoc et du Clos Vougeot sont terminés pour l'été, mais on attend avec impatience les surprises œnologiques et musicales qu'ils nous réservent pour l'année prochaine.
Les festivals et la gastronomie ou l'œnologie, c'était un reportage signé Odjiger. Voilà un reportage qui donne envie de se mettre à table, comme disent les musiciens du groupe Chanson plus Bifluoré.
Allez, en voiture, en voiture.
Ce soir encore, je renouvelle corps à corps avec le pâté de foie. Mais cette fois, c'est la charcuterie premier choix.
La charcuterie premier choix, oui.
Sûr, je vais m'y reprendre à deux fois. À deux fois, Grivanti, volaille, sauce, mayonnaise, la peau aux amis. Boulet grillé, miam, filet de porc sur purée.
Filet de porc sur purée.
Co, de l'aide de vos panés.
Panés d'hier.
C'est le pain bougiwa, bougiwa, c'est le pain de gala, bougiwa, c'est le pain bougiwa, c'est le repas de gala, fameux repas de gala. Pour continuer, je vous dirai les crudités et le saumon mariné.
Allez,
sans oublier le fameux saucisson fumé,
le fameux saucisson fumé.
Ah, condition d'y ajouter,
quoi non?
Quelques jus par-ci, une centaine de crevettes et un gratin dauphinois. Un roulé de veau et puis un sauté maringot.
Oh le sauté maringot.
Ah, rosé de mon Beaujolais.
Moi j'ai fait le chorus.
Ouais, chorus.
Chorus. Sylvain Richardot au piano. Sylvain Richardot.
Un extrait de Repas Boogie Wah, c'est une chanson de Sylvain Richardot interprétée par lui-même avec son groupe Chanson plus Bifluoré. Merci d'écouter France Musique ce matin, il est 7h47.
Thank you.
Voilà, de la musette. Moi, j'aime beaucoup la musette. Peut-être que vous trouvez que c'est un peu difficile à écouter le matin au réveil. C'était une suite de plusieurs chansons traditionnelles et autres menuets du XVIIe siècle, dont J'ai du bon tabac, vous avez peut-être reconnu, interprété par les musiciens de Saint-Julien avec François Lazarevitch lui-même à la musette. Merci d'être avec nous sur France Musique. Il est 7h50, c'est l'heure de vous dégourdir les doigts. Il va falloir taper très vite sur votre clavier, c'est l'heure du jeu de l'été. A gagné ce matin le disque Proust, le concert retrouvé du violoniste Théotime Langlois de Swart en duo avec le pianiste Tanguy de Villancourt. Théotime qui était notre invité au début du mois, c'était le 7 juillet dernier. C'est un superbe disque où les deux jeunes musiciens ont reconstitué le programme donné par Proust un soir de 1907 à l'occasion d'un concert privé au Ritz. Il y avait Fauré, Wagner, Reynald Hahn, Schumann, Chopin et Couperin. Ce CD nous permet d'imaginer les yeux fermés l'intérêt des salons parisiens du début du XXe siècle en nous plongeant dans cet univers musical très fécond qui imprègne toute la recherche du temps perdu. Pour gagner, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre. Vous nous écrivez via l'onglet Contactez-nous sur la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr. Surtout, vous n'oubliez pas de nous indiquer vos coordonnées complètes. Alors voici la question. Parmi les trois compositeurs français au programme de ce disque, lequel a eu une liaison avec Marcel Proust ? Est-ce que c'est Reynald Hahn, Gabriel Fauré ou Frédéric Chopin? Parmi les trois compositeurs français au programme du disque, lequel a eu une liaison avec Marcel Proust? Reynald Hahn, Gabriel Fauré ou Frédéric Chopin? Allez, c'est assez facile ce matin, c'est à vous de jouer, vous avez jusqu'à 8h50. Après un rêve, une des trois mélodies opus 7 de Gabriel Fauré, arrangée ici pour le violon de Théotime Langlois de Swart et le piano de Tanguy de Villancourt. C'est un bel extrait de ce disque Proust, le concert retrouvé, qui est en jeu ce matin. Un disque du label Harmonia Mundi. Allez, je vous rappelle vite fait la question du jour. Parmi trois compositeurs français au programme du disque, lequel a une liaison avec Marcel Proust, Reynald Hahn, Gabriel Fauré ou Frédéric Chopin? Continuez de nous écrire, le tirage au sort est à 8h50. En attendant, je je vous précise que le concert Reynaldoan sera donné, un concert Reynaldoan sera donné le 1er août au festival Lyrique en mer à Belle-Île, avec Michael Martin Badier récitant, la soprano Jasmine Black Grolmund et le pianiste Philippe Walsh, un concert donné à la Pointe des Poulains, où Reynaldoan justement avait passé un été à Belle-Île chez son amie Sarah Bernhardt. Et même si le démon était rempli, monde était rempli par le démon, c'est un chœur extrait de la cantate BWV 80 de Bach, Ein Festburg ist unser Gott, notre Dieu est une forteresse sûre. Le Collégium Vocal de Gand et Philippe Hervègue, en parlant de Bach, a noté que le 1er août, dans son Bach du dimanche, Corinne Schneider fera une spéciale Jordi Savall, c'est à ne pas manquer.
Jusqu'au 6 août, France Musique vous invite au Festival de Piano de la Roque d'Anthéron. 6 soirées à vivre en direct du festival avec d'immenses artistes Katia Bouniatichvili, Bertrand Chamaillou, Pavel Kolesnikov, Boris Berezovsky. Liszt, Chopin, Mozart, Bach, Rachmaninov sont à l'affiche. Le bonheur, 6 belles soirées de piano en direct du parc du Château de Florent. Toutes les infos sur francemusique.fr.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles, et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à tous sur France Musique. Il est 8h. Et tout de suite, c'est l'heure du journal d'Elisa Fernandez. Bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. La Martinique se reconfine dès demain soir et pour au moins 3 semaines. Face à la recrudescence des cas de Covid, la préfecture l'a annoncé hier soir. Les déplacements à plus de 10 km autour du domicile seront limités. Autre mesure, le couvre-feu déjà en vigueur sera avancé à 19h. Et le virus inquiète aussi du côté de la Guadeloupe, où le nombre de cas a plus que triplé en une semaine. Un couvre-feu s'appliquera également de 21h à 5h du matin. La vaccination progresse en France. Plus de 60% de la population a reçu une première injection. Pourtant, il existe de réelles disparités sur le territoire. C'est ce que dévoile un géographe de la santé, Emmanuel Vigneron. Il a mis au point une carte qui illustre la fracture vaccinale, fracture notamment géographique, entre un nord-ouest survacciné et un sud-est sous-vacciné par rapport à la normale. Et sur le pourtour méditerranéen, cette sous-vaccination tient moins à une défiance ou une méfiance qu'à des raisons sociales et territoriale. C'est l'explication du sociologue Jean Viard.
La France méditerranéenne, c'est une France qui s'était dépeuplée au 19e siècle et repeuplée au 20e, notamment avec des Français du Nord. Donc c'est des gens qui sont moins liés par l'Église, ils n'ont pas toujours été voyés. En Provence, à peu près la moitié des adultes ne sont pas nés dans la région. Donc je dirais que les liens sociaux sont plus faibles. Et d'ailleurs, politiquement, ces régions sont différentes. La façade méditerranéenne a beaucoup hésité entre le Parti communiste et le Front national, ou le Rassemblement national maintenant. Vous voyez, tout se tient quelque part. Le lien entre les gens, le niveau d'études, le niveau de revenus. Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse sont des villes qui se vaccinent beaucoup. Alors c'est plus des villes de cadre, c'est plus des villes aisées. Donc c'est autant une différence sociale, on pourrait dire culturelle, qu'une différence territoriale. Je crois qu'il faut lire les deux en tenant compte du fait que les Français se déplacent. Prenez une ville comme Lyon, les 2/3 des Lyonnais sont nés à Lyon. Et vous prenez la Provence, la moitié des Provençaux ne sont pas nés sur place. Donc vous voyez, la structure de la population française n'est pas la même partout, ni en termes culturels, ni en termes de revenus, mais ni non plus en termes de trajet de vie et donc de système d'intégration. Je trouve que cette carte illustre bien toutes ces ruptures et le fait que ça appelle à des politiques diversifiées.
Le sociologue Jean Viard avec Olivier Vogel. Un abandon, ou plutôt un report. Le projet Hercule devait marquer une grande réforme d'EDF. Il n'aboutira finalement pas avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, faute d'un point d'entente avec la Commission européenne. Il sera de nouveau examiné après l'élection présidentielle de 2022. En Tunisie, après la suspension du Parlement et le limogeage du Premier ministre, c'est au tour du PDG de la chaîne de télévision nationale d'être démis de ses fonctions. Cette décision intervient alors qu'un militant des droits de l'homme et une journaliste se sont vus interdire l'accès à la chaîne. 3 jours après la prise de pouvoir du président Kais Saied, les appels se multiplient pour accélérer la mise en place d'un gouvernement. Ce 29 juillet marque le jour du dépassement, soit le jour où l'humanité a utilisé toutes les ressources que la Terre peut générer en une année. Le dépassement intervient quand la pression humaine dépasse les capacités de régénération des écosystèmes naturels. Et cette année, il revient au niveau de 2019, après une brève accalmie en 2020, liée à la crise sanitaire. Véronique Rebérotte.
Sans surprise, avec la reprise économique mondiale post-déconfinement, le jour du dépassement reprend sa course folle. L'indice a pour but d'illustrer la consommation toujours plus élevée d'une population mondiale, elle aussi toujours plus élevée, sur une planète aux ressources limitées. Il y a un peu plus de 50 ans, le jour du dépassement tombait le 29 décembre, c'était en 1970, le 11 octobre en 1990, le 7 août en 2010. En 2021, il faudrait 1,7 planète Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale de façon durable. Une vie à crédit aux limites évidentes. En début de semaine, des milliers de scientifiques du monde entier ont alerté sur les signes vitaux de la planète qui s'amenuisent, s'affaiblissent face à la surexploitation générée par l'économie mondiale. Selon eux, les gouvernements doivent urgemment s'attaquer à ce qui est la cause du réchauffement climatique, la surexploitation de la Terre, dont le jour du dépassement est l'un des indices les plus significatifs. Dans un texte publié dans la revue Bioscience, les scientifiques appellent à des actions radicales, la stabilisation de la population mondiale, la restauration des écosystèmes, la remise en cause de notre modèle de croissance économique actuel et bien sûr la fin des énergies fossiles, le tout sans tarder.
Le temps maintenant avec des éclaircies un peu partout en France. Les températures seront globalement plus douces, entre 15 et 25 degrés le matin. Cet après-midi, dans le sud-est, le thermomètre oscillera entre 26 et 31 degrés. France Musique, il est 8h05, l'heure de retrouver Clément Rochefort dans Musique Matin.
Merci Elisa Fernandez. Prochain journal sur France Musique à midi. Quant à nous, à venir dans Musique Matin jusqu'à 9h. À 8h10, le Tour de France des festivals, direction la région d'Aix-en-Provence au Tolonnais pour évoquer les musicales de la route Cézanne. À 8h25, l'été des frères Jacques. Et puis à 8h30, on accueillera notre invité du jour, la violoncelliste Emmanuel Bertrand, qui viendra nous parler de son tout dernier disque, Johannes Brahms, avec le pianiste Pascal Amoyel. Et si vous êtes en région parisienne, je vous conseille d'aller faire un tour dans le Vexin. C'est au nord de Paris, où jusqu'au 1er août se tiennent les révélations musicales du Vexin à l'occasion du 15e anniversaire des masterclass Via Nova du violoniste Jean Moulière. Tout se passe dans et autour du magnifique château de la Roche-Guyon, c'est dans le Val d'Oise, au programme des concerts de jeunes lauréats et d'anciens élèves talentueux comme le quatuor à cosse, le violoncelliste Bruno Philippe ou encore le pianiste Adam Laloum. Thank you. Le scherzo de la première sonate en fa dièse mineur opus 11 de Robert Schumann, et c'était le pianiste Adam Laloume.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Merci d'être avec nous. Il est 8h11, c'est l'heure du Tour de France des festivals. Et ce matin, nous prenons la direction de la région d'Aix-en-Provence. Alors, on n'est pas très loin de la Roque d'Anthéron, finalement, où France Musique a posé ses micros depuis hier. Nous sommes sur la route, ou plutôt au musical de la Route Cézanne, qui commence demain soir et qui se tient tout le week-end jusqu'au 1er août sur la commune du Tolonnais, près d'Aix-en-Provence. Donc, pour en parler, on est avec le fondateur et le directeur artistique du festival, Christophe Bucudjian. Bonjour.
Bonjour Clément, merci beaucoup de me recevoir.
Avec plaisir. Alors la route Cézanne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les concerts ont lieu dans des endroits où a vécu ce grand peintre?
Non, alors en fait c'est la route est bien sûr thématique puisqu'on se retrouve, on est sur la route même que Paul Cézanne empruntait pour se rendre à la Sainte-Victoire. Donc les concerts ont lieu au Tolonnais et dans un lieu privé que par contre Paul Cézanne a peint. Donc voilà, on aura d'ailleurs une conférence, j'en parlais tout à l'heure, de Bruno Eddy du musée Granet d'Aix-en-Provence à ce propos.
Alors c'est quoi les trois? Il y a trois lieux, hein, je crois, pour les concerts. Hein.
Voilà, c'est ça. Il y a un lieu de répétition et deux lieux de concert. Donc le premier lieu, c'est le château du Tolonnais. Donc on va inaugurer le festival donc demain soir avec Stéphanie Doustrac dans un programme de musique française et que j'accompagnerai au piano. J'en suis vraiment très heureux. Donc notamment avec bien sûr des Duparc, avec l'invitation voyage. Sur un poème de Baudelaire fameuse. Et on va également commémorer Pauline Verdot pour le bicentenaire de sa naissance et des opéras, des airs d'opéra de Massenet, de Carmen, bien sûr, parce que Stéphanie a chanté Carmen il y a 3 ans et les spectateurs du Festival d'Art Lyrique s'en souviennent encore.
Alors moi, je voulais que vous, avant de parler plus précisément des concerts, je voulais que vous nous fassiez un peu rêver, Christophe Bucudjian, parce que moi, j'ai les photos sous les yeux. Il faut le dire aux gens qui ne connaissent pas le domaine Saint-Joseph, il y a une magnifique fontaine, le château aussi du Tolonnais, ça a l'air d'être un endroit sublime, là, flanc de colline.
Ouais, tout à fait. Alors en fait, le domaine Saint-Joseph, c'est un domaine privé, donc pour l'instant, qui reste privé, qu'on va faire découvrir le matin, dimanche matin. Et c'est un ancien domaine jésuite. Et là, la fontaine que vous voyez sur la photo, c'est un bassin en fait. C'est un bassin où les jésuites prenaient leur bain en fait. Et c'est moi, j'ai découvert ce lieu il y a un an et demi pendant le premier confinement, et je me suis dit mais il faut absolument faire entendre de la musique dans cet endroit. Et c'est vrai que le lieu est très très étrange et très poétique.
Alors il y a des concerts bien sûr, mais il y a aussi pas mal d'à côté, des nouvelles expériences aussi avec des concerts au lever du jour, c'est bien ça?
Exactement, bah justement à ce fameux bain jésuite, on va proposer une nouvelle expérience sensorielle avec un concert du coup voilà au lever du jour, ça sera plutôt 7h30 donc parce que je voulais le faire plus tôt, mais on m'a dit que c'était vraiment trop tôt donc ça sera 7h30 du matin. Donc là c'est vrai qu'il y aura une promenade qui précédera le concert pour une mise en condition, je dirais voilà des sens. Avec un programme autour de Schubert, de compositeurs romantiques, voilà.
Il y a aussi des répétitions auxquelles on peut assister tout au long du festival, des rencontres également. Le thème de ce festival, s'il fallait en trouver un, ce serait le voyage peut-être, quand on regarde un peu la programmation.
Exactement, en fait, oui, j'ai voulu décliner la thématique de la route, en fait, du cheminement de la route, donc la route, pour le coup, du paysage impressionniste pour le premier concert avec Stéphanie. La route de l'Orient pour le second concert, puisque on va proposer les compositeurs arméniens et iraniens avec un hommage à Arnaud Babadjanian, et du coup ce fameux cheminement intérieur dont je vous parlais avec plutôt des compositeurs romantiques dont Schubert.
Ça, ce sera donc avec la pianiste Vardoui Yeritsian. Le programme s'appelle Lettres d'Arménie, puis il y aura aussi un concert avec Leila Ramzan au piano et puis Kevan Chemirani pour ce programme oriental chez Erazat. Ça, c'est le 31 juillet. Il y aura aussi un carnaval en clôture, Carnaval des animaux, clin d'œil à Saint-Saëns.
Oui. Tout à fait. Tout
avec
à
une
fait.
Voix exceptionnelle.
Avec Marie-Christine Barrault, voilà. Donc on a beaucoup de chance de la voir dimanche prochain sur des textes de La Fontaine, Robert Desnos, Prévert. Du coup, je suis ravi de sa participation et voilà, on l'attend avec impatience.
Alors si on s'intéresse au festival les musicales de la Route Cézanne, on peut réserver, on a un site internet qui fonctionne, qui est accessible. Vous nous le donnez?
Tout à fait. Alors c'est les musicales de la Route Cézanne, tout attaché.fr.
Eh ben voilà.
En ligne, en fait.
Ça peut pas être plus simple. Merci beaucoup, Christophe Bucudjian. On vous souhaite un très très bon festival, les musicales de la route Cézanne. Ça commence donc demain et c'est jusqu'au 1er août.
Oh.
J'adore cette chanteuse à la voix merveilleuse. C'est la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac. L'invitation au voyage de Henri Duparc avec Pascal Jourdan, Stéphanie Doustrac, qui fera donc l'ouverture demain soir des musicales de la route Cézanne. Merci d'être avec nous sur France Musique. Il est 8h20. Alors si vous n'avez pas la chance d'être sur les routes, il suffit de tourner le bouton de votre radio ou de vous connecter sur francemusique.fr et vous pourrez vivre en une seule journée 3 concerts inédits aujourd'hui. À 16h avec Christophe Dillis, concert Rimsky-Korsakov, Copland et Ravel par l'Orchestre Symphonique de la Norddeutschen Rundfunk sous la direction de Alan Gilbert. À 21h, c'est le concert à ne pas louper, c'est Jean-Baptiste Urbain que vous retrouvez en direct du Festival de la Rock d'Anteron avec des nocturnes, des mazurkas et autres ballades de Chopin avec deux sonates de Mozart aussi par le pianiste Pavel Kolesnikov. Et puis à 23h, Jazz été par Marjolaine Portier-Kaltenbach, un concert donné il y a quelques jours au Festival de Radio France Occitanie, Montpellier. Thank you. L'impromptu numéro 1 en la bémol majeur, opus 29 de Frédéric Chopin, sous les doigts du pianiste Pavel Kolesnikov. La même chose ce soir, à partir de 21h, mais en direct du Festival de la Roque d'Anthéron, avec quelques cigales, 8h26.
C'est l'été sur France Musique.
Et c'est l'heure de retrouver, comme tous les matins à cette heure-ci, nos chers frères Jacques.
Et ben alors, qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que c'est beau, la photographie ? Les souvenirs sur papier glacé électrisent.
Alors aujourd'hui, dans l'été des frères Jacques, j'ai choisi de vous faire entendre de nouveau une chanson qui prouve le goût immodéré de ce quatuor vocal pour les mots et leur sonorité. On avait déjà pu apprécier cela dans Ode d'après Raymond Queneau, c'était il y a quelques semaines, quelques jours. Je vous conseillerais aussi d'aller écouter leur chanson Méli Mélo, où ils chantent chacun en même temps un texte différent. Mais ce matin, j'ai choisi la chanson Tout en glissant de Guy Lafarge et de Philippe Gérard. Elle raconte la belle histoire d'une rencontre amoureuse entre le jeune et insistante Alexis et la glaciale Tessa, qui ne veut pas de lui. Mais le plus important, ce qui est central dans la chanson, c'est un jeu continu sur l'allitération en S, comme dans le vers de Racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Vous allez voir, c'est très mignon et c'est un régal pour l'oreille. C'est aussi un petit clin d'œil ce matin, notre réalisatrice qui s'appelle presque comme l'héroïne de la chanson, Taïsia, les frères Jacques, tout en glissant.
Glissant en 1900 sur le glacis du grand lac d'Annecy, Ben Alexis vit s'avancer. La belle Tessa glissant, glissant, glissant sans cesse. L'œil assassin, l'air languissant, il s'empressa de la viter à valser. Elle dit merci d'un ton froissé en lui lançant un long regard glacé.
Plaignez le pauvre garçon qui rencontre un glaçon en glissant sur la glace.
Pour sauver la face, que faut-il qu'il fasse ?
Doit-il s'éloigner d'ici pour chasser son souci ou rester dans la place ?
Voici ce que fit Alexis aussi. Pas trop déçu, il recommença à pourchasser les patins de Tessa. Mais elle passa en nourrissant de noirs dessins pour ce glisseur suivant sans cesse. Puis elle pensa, j'en ai assez, tout en laissant choir son mouchoir de soie. Vite Alexis le ramassa, mais il glissa et se cassa le coccyx.
Oh, je n'ai pas voulu ça, dit la belle Tessa en se voilant la face.
Faisant volte-face, elle rompit la glace.
Je suis prête à effacer ce malheur insensé, ne faites plus la grimace.
Que mon vœu soit exaucé. Et c'est tout en glissant qu'elle poussa le beau blessé dans un très long taxi. Rideau baissé, elle le berça. Sur son corset glissons, passons, c'est la censure sans ascenseur. Au septième ciel se sont hissés deux cœurs à l'unisson. Et c'est ainsi qu'une étincelle brûla le sein si glacé de Tessa. Oui, c'est ainsi qu'en 1900 on s'unissait comme ça tout en glissant.
Avec un joli petit glissando d'ailleurs à la fin, comme savent en faire les violoncellistes tout en glissant. Philippe Gérard et Guy Lafarge, une chanson interprétée bien sûr par les frères Jacques. Il est 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Je disais que les glissando étaient l'apanage des violoncellistes, entre autres. Eh bien, on en a une avec nous ce matin sur France Musique. Emmanuel Bertrand, bonjour.
Bonjour Clément.
Vous écoutiez avec attention les frères Jacques, vous connaissez ça ? Vous avez écouté quand vous étiez petite ?
Oui, absolument. Alors, vous m'avez dit que les frères Jacques s'étaient arrêtés en 1982. J'avais pas vraiment ces repères précis, mais en tout cas, je me souviens toute mon enfance d'avoir entendu leurs chansons, de les avoir vues à la télévision. Puis il y a quand même une très célèbre chanson qui est dédiée au violoncelliste.
La violoncelliste, voilà, chanson très amusante, très coquine aussi, d'une certaine absolument. Manière, qu'on a écoutée d'ailleurs, c'était en début de saison, quand on avait reçu une toute jeune violoncelliste, Irène Jolis. La violoncelliste Emmanuel Bertrand est avec nous ce matin. Vous allez nous parler d'un disque qui vient de sortir tout juste sous le label Harmonia Mundi, avec votre mari Pascal Amoyel au piano, un disque de sonates et de leader, de chants d'amour de Johannes Brahms. Alors cet album, c'est avant tout un anniversaire, hein, 20 ans que vous partagez la scène et la vie du pianiste Pascal Amoyel. Dites-moi, en 20 ans, vous avez tout joué du répertoire violoncelle piano existant sur la planète?
Alors, heureusement pas, parce que nous aimons bien les découvertes et qu'il y en aura encore une multitude, je pense. Mais c'est vrai que pour ce disque, nous sommes revenus à nos premières amours, parce que la sonate en mi mineur, c'est la première œuvre que nous avons déchiffrée ensemble. Nous nous sommes rencontrés à l'après, au domaine de l'après, lors du festival, et nous étions invités séparément. Et puis ça a été une sorte de coup de foudre artistique. On s'est dit, il faut absolument qu'on déchiffre, qu'on joue de la musique, qu'on commence à travailler ensemble. Et la seule partition que nous avons trouvée, parce qu'évidemment nous n'en avions pas avec nous, c'était la sonate en mi mineur. Nous avons joué les premières mesures, je me souviens très bien, on s'est arrêté après quelques lignes, on s'est regardé, et là je pense qu'on a compris qu'il se passait quelque chose de très fort et qu'on allait sans doute jouer longtemps ensemble. Voilà, ça fait 20 ans et c'est toujours une aventure renouvelée et un bonheur quotidien.
On peut dire que c'est Brahms qui a scellé votre amour, Emmanuel Bertrand, Brahms grâce à qui vous fêtez donc vos noces de porcelaine, je suis allé vérifier. Ah. Voilà, 20 ans de mariage, en tout cas c'est les noces de porcelaine. C'est quoi le secret d'une telle longévité comme ça dans un couple de musiciens? Parce qu'en plus d'être ensemble, vous travaillez ensemble, vous êtes tout le temps ensemble finalement, vous n'êtes pas encore entretués.
Alors on fait aussi beaucoup de choses séparément, je pense.
Ah,
que
c'est ça le secret.
Peut-être, mais je pense que le fait de se retrouver et de pouvoir, parce qu'on partage aussi ce qu'on fait séparément, bien sûr. Pascal avec ses spectacles, avec le répertoire solo aussi, mais c'est vrai qu'on n'est jamais très loin l'un de l'autre et que le fait de jouer ensemble et de se retrouver, de voyager ensemble, c'est là qu'on discute de tous nos projets aussi, et ça reste quelque chose qui participe au socle, vraiment. Et donc c'est vrai que chez nous, il n'y a pas beaucoup de frontières entre le travail et le privé, mais au fond, est-ce qu'on peut considérer que la musique est un travail? Elle est toute notre vie, elle est là sans cesse. Donc.
D'ailleurs, j'allais vous demander, Emmanuel Bertrand, est-ce que vraiment vous avez encore besoin de travailler? Parce que après 20 ans de duo, on n'a plus besoin de se parler, tout se fait de manière automatique, non?
Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de se dire, effectivement, parce qu'on respire ensemble, parce qu'on se comprend avec juste un petit mouvement de sourcil. Voilà, mais malgré tout, sur tout le nouveau répertoire. Puis on se rend bien compte aussi que les œuvres avec lesquelles on vit depuis longtemps, on évolue avec elles, et il y a toujours un plaisir particulier à rechercher quelque chose de nouveau. Je pense que cette sonate, évidemment, on la joue très différemment de ce qu'on a fait durant les premières années. Et c'est tout ce qu'on mesure en tant que musicien, à reprendre certaines œuvres et évidemment les chefs-d'œuvre tout au long de la vie. On sait bien que beaucoup d'artistes ont enregistré, par exemple, plusieurs fois certaines intégrales et qu'on y découvre quelque chose de différent. Et le fait de partager ça aussi, que ce soit un sujet de recherche à deux, c'est vraiment passionnant, c'est très enrichissant.
Emmanuel Bertrand, vous êtes venu nous parler d'amour ce matin sur France Musique. En voici de l'amour à l'état brut.
Ah là là, battez-moi la coulpe pour interrompre cette musique. Je sais, on voudrait l'écouter en entier, Manuel Bertrand, mais ça dure un quart d'heure quand même, hein, ce premier mouvement.
Oui.
C'était le début de la première sonate pour violoncelle en mi mineur, l'opus 38 de Johannes Brahms, avec vous Emmanuel Bertrand, Pascal Amoyal au piano. Cet extrait de ce tout nouvel album qui vient de sortir chez Harmonia Mundi. Alors sur le disque, il y a les deux sonates pour violoncelle de Brahms, et puis au milieu, entre les deux, vous avez intercalé des transcriptions de Lieder de Brahms. Pourquoi ce choix-là ?
Alors, il se trouve que ces transcriptions, elles ont été éditées par l'éditeur de Brahms à la fin de la vie de Brahms, c'est-à-dire qu'il en a nécessairement eu connaissance. Alors, ce sont des Lieder qui sont pris dans des cycles tout au long de la vie de Brahms, mmh. et que nous n'aurions peut-être pas eu l'audace d'associer sans cette forme d'aval, mais là, ça a été... Voilà, Brahms en a forcément eu connaissance, et cela forme un cycle qui semble absolument idéal pour le violoncelle. On y retrouve notamment la berceuse, mais enfin, une collection de six leaders qui chantent magnifiquement. Je trouve que le violoncelle, souvent, moi j'ai toujours plaisir à transcrire de ce qui est écrit pour la voix, et là il y a une telle osmose entre le piano et la voix. Alors bien sûr, nous n'avons pas le texte, mais en même temps, on connaît les sujets. Et c'est ce sujet de l'amour vers l'enfant, de l'amour vers... l'être aimé, la passion, le deuil, toutes ces dimensions-là qui sont exprimées avec la finesse qu'on connaît à Brahms.
Alors transcription et puis transposition peut-être, parce que le leader d'origine était écrit pour des voix aiguës.
Oui, alors pas toujours, mais ce sont des leaders qu'on entend de toute manière dans différentes tonalités. Ouais. Mais la partition telle qu'elle se présente aujourd'hui est celle qui a été éditée du vivant de Brahms.
Donc ça veut dire qu'on sait que, de toute façon, on sait qu'à l'époque, dans les familles, on arrangeait beaucoup de choses hein, pour jouer à la maison, tout simplement, même des opéras, des symphonies. Des airs d'opéra. Comment est-ce qu'il écrit Brahms pour le violoncelle ? On sait que c'est avant tout un grand pianiste. Est-ce que c'est très naturel pour le violoncelliste, la musique de Brahms ?
Je crois que c'est une évidence, en fait. Ouais. Il sait faire chanter l'instrument. Il n'y a jamais de maladresse. Il y a une écriture parfois assez pianistique. Hein. Je pense au final de la sonate en mi mineur, par exemple, cette référence à Bach avec la fugue, le côté très marcato. Mais je pense qu'il y a une réelle osmose entre les deux instruments qui font qu'on oublie parfois qu'il y a deux instruments aussi. C'est-à-dire que le violoncelle chante le piano chante le violoncelle, et finalement on a une multitude de combinaisons possibles qui nous font très rapidement basculer dans autre chose que la dimension instrumentale.
Et puis on a l'impression qu'il utilise vraiment toute la tessiture hein, du violoncelle, Brahms. Il s'amuse à la fois avec le grave, avec les très aigus. Hein.
C'est très juste, parce que je pense que même le fait de contraindre l'ambitus, on l'a entendu là dans le premier thème, il aime aller du subgrave à l'aigu, et c'est ce qui donne cette tension extrême. Voilà, donc oui, ça, je crois qu'on explore l'instrument avec toutes les possibilités, et même il les a sans doute repoussées à l'époque de l'écriture de ces œuvres-là.
Est-ce que quand vous travaillez les leaders de Brahms en transcription, est-ce que vous essayez justement d'imiter au plus près la voix humaine ?
Non. Non, ce qui est la source pour nous, c'est vraiment c'est de partir du texte, mais avec cette conscience que le texte n'est pas une finalité, mais simplement un passage pour revenir vers la pensée musicale de l'auteur qui est bien plus vaste. Je me dis souvent que ça doit être un déchirement pour le compositeur que de choisir un signe, un moyen d'exprimer quelque chose, parce que c'est forcément une réduction. Et donc, de prendre un modèle qui serait déjà une forme d'interprétation, donc forcément une forme de réduction de ce qui a été pensé à l'origine, c'est se priver, s'amputer d'une grande part de l'imaginaire. Donc le but, c'est de revenir au contraire vers la forme la plus grande et d'essayer de trouver la liberté par rapport à ça.
Allez, on essaie de trouver la liberté ensemble. On va écouter un de ces six chants d'amour transcrits pour violoncelle et piano qui sont sur votre disque. Emmanuel Bertrand, Pascal Amoyal. C'est, alors j'ai un allemand épouvantable, je vais quand même essayer de me lancer. Wie Melodien sieht es mir leise durch der Sinn. Ça veut dire comme des mélodies, cela m'entraîne doucement dans mon esprit. Thank you.
me demande si c'est pas presque mieux sans la voix et sans les paroles. Et Emmanuel Bertrand, c'était Vie mélodienne, un des 6 chants d'amour de Brahms, transcrit pour violoncelle et piano. Ces 6 chants d'amour qui viennent faire la jonction entre les 2 sonates pour violoncelle de Brahms. 2 sonates qui ont 20 ans d'écart. Mm-hmm. Qu'est-ce qui change vraiment dans le vocabulaire de Brahms entre la première et la deuxième pour vous, Emmanuel?
Alors, comment savoir si c'est lié au temps, à ces 20 années? Mais je dirais que la forme de la seconde est beaucoup plus étendue. Voilà, il y a aussi une grande différence. Il y a ce mouvement lent qui est un sommet dans la sonate en fa, alors qu'il n'y a pas de mouvement lent dans la sonate en mi mineur. Mais c'est vrai que le premier mouvement, qui est un allegro moderato, fait presque office en même temps de premier mouvement et de mouvement lent. Mais voilà, ce mouvement avec les pides dans la deuxième sonate, et puis ce thème complètement où le temps s'arrête, ça reste aussi un sommet. Mais je dirais que, surtout, on est heureux qu'il y ait 2 sonates,
oui.
Parce qu'elles sont effectivement très différentes. Et j'ai pas nécessairement le sentiment que ce soit lié à une question d'âge ou de maturité. Mmh. Parce que la première sonate est d'une maturité extrême déjà. Enfin, il y a cette profondeur.
Parfois, j'ai l'impression que la première, elle est plus fougueuse, plus romantique. Je ne sais pas comment dire que la seconde. Enfin bon, c'est,
oui.
C'est une impression que j'ai. Hein. En tout cas, on dit toujours sonate pour violoncelle de Brahms. C'est
vraiment
sonate pour violoncelle et piano. Hein. Oui. Il ne faut pas oublier Pascal Amoyel. Parce que c'est pas un accompagnateur hein, quand même dans la musique de Brahms, le piano. C'est pas un simple accompagnateur.
Et puis, alors vraiment, ça c'est... C'est quelque chose de tellement essentiel. Moi, je n'ai jamais conçu un répertoire de sonates comme étant principalement pour violoncelle. D'ailleurs, un certain nombre de sonates sont présentées, au contraire, comme étant écrites pour piano et violoncelle. Rachmaninov, par exemple. Mais le piano, c'est essentiel. Enfin, le violoncelle est un instrument monodique, donc on a juste... On rajoute juste une couleur sur l'harmonie. Mais c'est absolument indissociable et c'est ce qui est tellement passionnant. Moi, au moment où j'ai rencontré Pascal, j'étais avec cette forme de quête d'idéal où je sortais d'une expérience de quatuor à cordes très intense qui s'était arrêtée. Et c'était vraiment, c'était pour moi un renoncement et j'avais cette idée, cette envie, ce désir ardent de pratiquer la sonate avec la même exigence que je l'avais fait pour le quatuor. Et c'est devenu possible grâce à cette rencontre avec Pascal. Et je pense que effectivement, on peut pas considérer que ce sont seulement 2 instruments solistes qui sont associés l'un à l'autre. Il y a un travail de musique de chambre qui est un travail de fourmi, de créer une mosaïque de sonorités, de se fondre dans le son de l'autre. C'est infini, c'est merveilleux, et ça n'est en aucun cas de l'accompagnement, effectivement.
Oui. On est très heureux, en tout cas, de vous entendre dans Brahms, de vous avoir entendu il y a quelques mois dans la musique de Bach. On était un peu habitués, toutes ces années, à vous voir défendre des œuvres, on va dire, des compositeurs un peu moins connus. Et puis là, depuis quelques temps, vous revenez au grand classique. Alors là, c'est quoi pour le coup? C'est une question de maturité pour vous? Vous attendiez le moment opportun d'enregistrer ces grands monstres sacrés?
Alors, j'avais pas le sentiment d'être en attente, mais je pense que ça s'impose aujourd'hui parce que je reviens à ces œuvres avec la... peut-être une conscience plus claire de comment bien qu'ayant entendu tellement de versions, grandi avec, mûri avec des versions historiques, comment j'en fais un bagage culturel, mais que ça n'entrave plus ce que j'ai vraiment envie d'exprimer. Et ça, je pense qu'il m'a fallu un petit peu de temps, effectivement, pour me décharger, entre guillemets, de tout ce que j'avais rencontré, acquis, entendu, durant toutes ces années. Et aujourd'hui, je reviens au grand répertoire. Le fait de jouer des œuvres inédites, moins connues, me permettait une rencontre avec moi-même, avec ce que je ressens vraiment dans la musique. Et c'était peut-être plus compliqué avec le grand répertoire dont on est avec cette musique-là. Et aujourd'hui, j'ai la sensation, je ne sais pas si on ne peut pas vérifier ça, mais d'avoir la capacité d'aller vraiment de laisser l'œuvre me traverser et d'y avoir une démarche presque de création, en fait. Voilà, au même titre que la musique d'aujourd'hui.
Bon, finalement, Brahms avait bien lui-même attendu très longtemps avant d'écrire sa première symphonie, hein, dans l'ombre de Beethoven. En tout cas, on va dire un petit mot avant de se quitter, Emmanuel Bertrand, et avant de réécouter un deuxième extrait de ce très beau disque. Un petit mot rapide sur les concerts à venir, les dates. Il y en a pas mal, hein,
oui,
en duo et puis chacun de votre côté avec Pascal.
Alors Pascal jouera son spectacle Looking for Beethoven ce soir aux Grandes Heures Musicales de Cluny. Pour ma part, je serai demain dans un récital Bach au Festival des Abbayes de Lorraine. Et puis ensuite, nous nous retrouvons, et Pascal y sera déjà demain, au Folnote de Beauzac. Alors ça, c'est un projet très particulier qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est ma sœur, Florence Badol-Bertrand, grande musicologue qui nous a quittés prématurément en décembre dernier. C'était la grande spécialiste de Mozart, oboïste. Et Florence s'est installée à Beauzac, qui est en fait notre village d'attache depuis 3 générations en Haute-Loire. Et elle y a initié de grands projets artistiques et notamment la création d'un centre culturel. Donc c'est ce festival qui a lieu pendant 3 jours à Beauzac en hommage à Florence, qui est dirigé par son fils Pierre Badol, qui est un merveilleux musicien corniste. Et puis ensuite, eh bien, nous reprendrons de nouveau la route pour la musique en écrin, le festival de Guil-Durance et les musicales du Haut-Anjou.
Voilà, plein de dates. Est-ce qu'on peut les retrouver, tiens, quelque part, toutes ces dates?
Tout à fait, vous pouvez les retrouver sur nos sites respectifs, Pascal Amoyel, Emmanuel Bertrand, voilà, les dates de chacun, et nos dates de duo, puisque effectivement, nous allons nous promener avec bonheur pendant quelques mois avec ce programme Brahms.
Et créer encore de beaux spectacles, on l'espère, et de beaux disques, on peut se procurer en attendant ce disque Brahms qui vient de sortir sous le label Harmonia Mundi. Merci beaucoup Emmanuel Bertrand d'être venu nous voir ce matin sur France Musique.
Un grand merci Clément.
Le final baigné de lumière de la deuxième sonate pour violoncelle et piano, on va le dire, opus 99 en fa majeur de Johannes Brahms. C'était Emmanuel Bertrand au violoncelle, Pascal Amoyel au piano, et cet extrait de leur tout dernier disque consacré aux sonates de Brahms, avec aussi quelques beaux chants d'amour. Et bien voilà, Musique Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Il est temps de découvrir les gagnants du jour. Alors la réponse à la question « Qui a eu une relation avec l'écrivain Marcel Proust ?» Eh bien c'est Reynaldo Hahn, bien sûr. Il s'était rencontré dans les salons de la peintre Madeleine Lemaire en 1894. Ils sont restés amants quelques années avant de devenir deux amis très intimes. Reynaldo Hahn a même sans doute été l'un des êtres que Proust a le plus aimé, si l'on en croit les nombreux témoignages de ceux qui les ont côtoyés. Alors bravo à nos trois gagnants du jour, Jean-Yves Depoix de Cléty dans le Pas-de-Calais, Elisabeth Kergal de Pont-Saint-Esprit dans le Gard et Sylvie Chevalier à Versailles dans les Yvelines. Tous les trois, vous recevrez d'ici quelques jours un exemplaire de ce très beau disque, le Concert Retrouvé, disque du violoniste Théotime Langlois de Swart et du pianiste Tanguy de Villancourt. Allez, on s'étire, la journée commence sur France Musique. Dans quelques instants à 9h, on retrouve Charlotte Landru-Chandès pour l'été classique. Bonjour Charlotte.
Bonjour Clément.
Le programme du jour.
Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans la féerie des contes et légendes. Et à 11h, notre grande interprète Anne-Sophie Fonauteur dans la musique française.
À tout de suite Charlotte, à 9h sur France Musique. Quant à moi, je vous retrouve demain matin pour une dernière matinale de juillet. On va faire la fête demain pour la dernière. Et on va recevoir l'accordéoniste Éric Allard qui joue du musette. Il en jouera même dans le studio, rien que pour nous. Un grand merci à toute l'équipe du jour, Laure Poissonnier et Lara Castiglione qui ont préparé cette émission, avec à la technique aujourd'hui AB Productions et Swat Boukorsa, une émission réalisée par Taïsia Froidur. Je vous souhaite une très très belle journée sur France Musique. Je vous dis à demain et je vous embrasse.
À réécouter sur francemusique.fr.